Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie, les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne. L'abîme, appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour. Et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi avais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau, je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. À la suite d'Israël, l'Église n'a pas hésité à faire sien ce magnifique psaume en le priant à divers moments de l'année liturgique. Il y reconnaît l'un des aspects fondamentaux de la vie chrétienne. L'une de ses utilisations les plus marquantes est certainement celle de la vigile pascale, veillée entre les veillées s'il en est. En faisant mémoire de la mort du Christ, elle chante durant ce sommet de l'année liturgique son espérance en la fidélité de Dieu au cœur même des ténèbres. Confrontée au sarcasme des impies, à leur oppression, le psalmiste y exprime sa dérédiction et crie sa soif intense du Dieu vivant, lui l'eau vive, en même temps qu'il s'encourage à espérer en lui. Le seul désir de son âme est de se trouver en face de Dieu, qui, en raison de ce qu'il est, ne peut décevoir. Aussi est-ce judicieusement que, mû par l'Esprit, l'épouse du Christ a choisi pour enchâsser ce psaume, lors de cette vigile, une antienne qui fait écho au verset 3 et qui a inspiré le titre de ce cours. Mon âme, chantons avec le psaume, a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Par là, l'Église opère un raccourci saisissant, et associe, voire identifie, la soif du Dieu vivant avec la vision de Dieu face à face. Voir Dieu face à face, voilà le cœur de l'aspiration humaine, la fin ultime et l'accomplissement de l'homme. Le cœur de l'homme est sans repos tant qu'il n'accède pas à la vision de Dieu. Le cours entend se mettre à l'écoute de ce que Dieu révèle sur cette fin, de l'ordre de la révélation. Donc sur cette fin, en grec, sur cette eschaton. On comprend dès lors le nom donné à cette partie de la dogmatique. L'eschatologie, la parole, l'étude de ce qui concerne la fin ultime de l'homme. Si cette fin est unique, c'est-à-dire la vie avec et en Dieu, il est cependant aussi possible de le conjuguer au pluriel et de parler des fins dernières. En effet, selon le point de vue où l'on se place, ce qui concerne la fin est tour à tour la mort, le jugement particulier, l'enfer, le purgatoire, le ciel, la parousie du Christ, la résurrection de la chair, le jugement dernier, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Pour cette introduction, j'aborderai quatre points. Il s'agit en effet tout d'abord de considérer la situation actuelle de l'homme. La mort s'impose à l'être humain. Elle devient une interrogation existentielle. Les manières de l'aborder dans notre culture vont dans les sens très divers. Il faut en prendre acte. Mais, et c'est le deuxième point, au cœur de cette situation mortifère jaillit la lumière de la bonne nouvelle du Christ. L'homme n'est pas un condamné en sursis. Il y a une espérance car Jésus est ressuscité. Malheureusement, troisième point, cette espérance est niée. Ne pas le prendre au sérieux serait à notre tour nier la réalité. Il faut prendre conscience des différentes pensées qui s'opposent à l'Évangile pour rendre compte de manière pertinente. L'acte de Dieu dans l'histoire, quatrième point, ne se laisse cependant pas enfermer dans ce qui le lie. En Jésus, Dieu est celui qui a accepté d'être nié pour, de l'intérieur même de la négation, faire jaillir la vie. Dieu est toujours plus grand. Tel est l'enseignement que l'on reçoit de l'événement du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Il s'agit donc pour nous de repartir de l'histoire sainte, dont l'acte du Christ est le sommet. On pourrait dire l'axe. En partant de la geste divine, nous pouvons recevoir de Dieu le milieu qui permet à la réflexion chrétienne d'assurer sa pensée, de trouver donc un juste équilibre, d'opérer les discernements nécessaires et de fonder théologiquement la joie de notre espérance. Je prends le premier point. L'homme est-il fait pour la mort ? S'il sait qu'il vit, il apprend assez rapidement qu'il va mourir. Autant que la vie, la mort fait partie de son univers. Et si notre société tend à cacher la mort réelle, la mort virtuelle, elle, est d'ailleurs largement assaisonnée de violence partout sur nos écrans. Elle y est même omniprésente. L'un des effets de cette virtualité est de mettre la mort à distance. Elle la rapproche, mais elle la met aussi à distance. C'est de la banaliser et de lui enlever son caractère dramatique. Elle en vient ainsi progressivement à sembler aux spectateurs qui la regarde en mangeant des pop-corn, quelque chose d'extérieur, qui ne le concerne pas, qui, en fin de compte, ne le touche pas. Puisqu'après un film, je suis toujours bien vivant. Mais la mort demeure un fait auquel tout homme est confronté, tôt ou tard, qu'il le désire ou non. À son heure, elle le frappe d'abord dans ses proches et ensuite directement. La mort est une donnée anthropologique première. Elle n'est pas d'abord une question religieuse. Les vivants peuvent-ils dire quelque chose de la mort, puisque c'est ce dont on ne revient pas? La mort est ce qui se passe, et ce qui se passe pardon, dans la mort demeure pour l'homme une grande interrogation. Tout le monde réfléchit. C'est à tel point que les rites funéraires, avec la maîtrise du feu et l'usage de l'outil, sont la marque de l'homme. En tout temps, il se pose la question de la mort. Les diverses religions et les grandes philosophies ont chacune, à leur manière, cherché à répondre à cette question. À côté de ces réflexions, se trouvent aussi des récits troublants aujourd'hui de mort, d'expériences de mort imminente, de réincarnation, de dialogue avec les morts. Je développe. Les expériences de mort imminente, donc les EMI, ou en anglais Near Death Experience, NDE, ont commencé à être très largement connues au cours du dernier demi-siècle, surtout grâce aux travaux du docteur Moody. Ces expériences, en fait, traversent les cultures et les âges. C'est pour ça que j'ai rendu le tableau de Jérôme Bosch que vous avez sur vos feuilles. Très proche de ce qui est écrit là. Elles font de plus en plus l'objet d'études universitaires en neurologie et en psychologie. Il est possible d'en trouver de très nombreux témoignages sur YouTube. Les récits de ces expériences sont aujourd'hui assez connus. Les personnes qui ont vécu cela décrivent généralement des phénomènes similaires. Décorporation, passage à travers un tunnel, marche vers une lumière, sensation de bien-être et retour dans le corps. Jusqu'ici, la majorité des témoignages allaient dans ce sens très positif. Ils décrivaient ce qui avait été vécu comme une sorte de ciel, entre guillemets, bien sûr. Certains, s'appuyant sur ces témoignages, mettaient le discours de l'Église à mal et nient la possibilité du purgatoire et de l'enfer. Mais depuis peu, d'autres témoignages d'expériences de mort imminente décrivent une expérience très différente. Si les symptômes cliniques, eux, sont les mêmes, les mêmes que des expériences positives, les nouvelles expériences, les nouveaux récits relatent des expériences très négatives, en fait horribles, absolument horribles. Elles ont été un tel tourment que bon nombre de ceux qui les ont vécues les nomment spontanément enfer. Quelques personnes témoignent qu'elles se sont tournées vers Dieu et qu'elles sont passées de cette vision de l'enfer à celle du ciel. Ces nouveaux témoignages dits de l'enfer invitent à poursuivre la réflexion à propos de ces EMI. Du point de vue théologique, ces nouvelles expériences de l'enfer s'ajoutent à celles du ciel et consonnent étrangement avec ce que la foi nous permet de savoir sur ce qui se passe à la mort. Selon ce récit, l'homme possède une existence en dehors du corps dès la mort clinique. Nous serions tentés, mais il ne faut pas ici confondre les gens, et c'est vraiment une tentation d'y voir ce que la foi entend par âme, ciel et enfer, et d'en faire, ça c'est aussi une erreur, des preuves de la foi de l'Église concernant les fins dernières. Il ne faut pas mélanger les genres. Cela dit, pouvons-nous dire que ces expériences parlent réellement de la mort? Comme leur nom l'exprime en anglais comme en français, ce sont des expériences proches de la mort ou de mort imminente, mais pas de la mort elle-même. Ces personnes dont on a pu constater la mort clinique ne sont pas réellement mortes. Elles sont revenues à la vie pour mourir une nouvelle fois. Ce qui n'empêche pas qu'il faut respecter ce qu'elles disent et ce qu'elles ont vécu. Et de leur seconde mort, qui fut leur seule véritable mort, elles n'ont rien pu dire. Ou plutôt, elles n'ont rien dit. Aucune n'est jamais revenue. Par définition, la mort, c'est ce dont on ne revient pas. C'est ce qui est définitif, et donc il s'agit de ne pas confondre ces expériences avec ce qui se passe lors de la mort elle-même. Si ces expériences étonnantes, affirment certains neurologues, peuvent avoir des explications médicales, il reste que de nombreux faits demeurent inexplicables pour la science et invitent à réfléchir théologiquement. À côté des EMI, il existe aussi des témoignages d'enfants se rappelant de personnes, de lieux et de situations qu'ils n'ont absolument pas connues, de petits enfants, et qui, après une enquête, se trouvent avoir réellement existé, pour avoir eu lieu plusieurs années avant leur naissance, sans qu'on leur ait rien dit. Les descriptions de ces enfants sont étonnantes de précision. Leur témoignage vient conforter en Occident une croyance en la réincarnation. De manière surprenante, ces croyances touchent davantage les milieux catholiques pratiquants que l'ensemble de la population. Il faut reconnaître d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui un vide imaginaire en ce qui concerne l'au-delà. La croyance en la réincarnation profite en réalité d'une déception ou d'un désintérêt de nombreux occidentaux par rapport à leur propre tradition chrétienne et aussi d'un attrait pour un Orient qui leur semble plus spirituel. Chez nous, l'idée de la réincarnation est généralement intégrée dans un ensemble assez nébuleux de croyances dont la rigueur de pensée laisse assez à désirer. Enfin, troisième point, nombre de personnes disent avoir parlé avec les morts, être capable d'entrer en dialogue avec eux. Il existe ici des récits plus étonnants les uns que les autres aussi, expériences de spirites, apparitions d'âmes du purgatoire. Les discours sont aussi variés, ils sont si variés, en fait, qu'on peut y perdre son latin. Quoi qu'il en soit, l'homme ne peut se contenter de voir sa vie sombrer dans le néant de la mort. Au creux de son cœur réside le désir, l'espoir de vivre. Et le scepticisme, à mon sens, n'en est que la preuve par le contraire. Ce désir se décline de plusieurs manières. C'est premièrement le désir que la vie ne s'arrête pas. La première rencontre d'un enfant avec la mort, lors du décès de l'un de ses aïeuls, le dit très clairement. Je me rappelle un enfant de 2-3 ans qui était complètement ébranlé parce que son grand-père venait de décéder. Et donc cela met en évidence l'incompréhension de l'homme face à la nécessité de mourir. Pourquoi en fait la vie doit-elle avoir un terme? Quel est le sens de ce butoir contre lequel toute vie doit finalement s'écraser? C'est aussi, en second, le désir d'une vie en plénitude. L'homme ne se contente pas d'une vie au rabais. La vie sur terre est marquée par la mort au plus profond de nos cœurs. L'homme ne se satisfait pas d'une vie morne, au point qu'il en vient parfois à préférer ne plus vivre, si c'est comme ça. L'homme veut, en fait, une vie à la mesure de son désir. Une vie forte, débordante, pleine de joie et de félicité, qui ne cesse pas. Bref, une vie qui remplit son cœur à la mesure de ses désirs. Une vie, en fait, qu'on appelle le bonheur. Voilà le désir le plus profond de l'homme. Ce bonheur auquel l'homme aspire le concerne dans sa totalité. C'est le bien-être corporel, psychique, intellectuel et spirituel. Et si telle est l'aspiration de l'homme, il semble justement que cette vie, sa vie, parce qu'elle finit par la mort, est un échec. Il n'y a de perspective pour l'homme que la mort. On ne prend peut-être pas suffisamment le poids de cela, la mesure de ce poids. La vie, en ce sens, ne conduit qu'au désespoir, qu'au scepticisme cynique et ironique. Au milieu de cette situation désespérante, brille un événement qui change radicalement la donne. C'est le deuxième point. Un homme appelé Jésus est ressuscité des morts. Sur lui, justement, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et a-t-il affirmé, celui qui croit en lui a la vie éternelle, c'est l'évangile de Jean 5, 24, il le ressuscitera, 6, 40. La mort, donc, n'est pas, ou n'est plus, le dernier mot de la vie. Il y a une espérance. Ce que Dieu veut pour l'homme et lui offre, c'est cette vie en plénitude. En un mot, la vie éternelle, ou la béatitude éternelle, et la résurrection des corps. Cette béatitude, nous dit la foi, consiste en la vision de Dieu, qui justement seul peut combler le cœur de l'homme. Elle concerne l'homme, corps et âme. L'évangile, c'est l'annonce de la victoire de la vie sur la mort, le don de la joie déjà ici-bas, et de sa plénitude dans la mort pour celui qui a ouvert ses mains afin de le recevoir de Dieu. Au cours des 20 siècles, des derniers 20 siècles, l'Église n'a cessé de méditer la révélation de cette bonne nouvelle. Elle a plus ou moins bien réussi, selon les époques, à rendre compte de son espérance, à préciser quel en est l'objet, ce que la foi conduit à espérer. Et grâce au Christ, et guidée par l'Esprit, elle a pu développer un discours sur la réalité ultime ou définitive de l'homme. Et elle l'a proclamé dans son credo, nous le proclamons dans le credo, je cite, il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. L'Église a donc pu parler de la mort, du jugement, du ciel, de l'enfer, de la parousie du Christ, de son règne et de la résurrection des morts. Associée à cela, elle a précisé ce qu'est cet état transitoire de la mort appelé purgatoire. Mais précisons encore, comme j'ai déjà dit, que tout n'est pas sur le même pied. L'objet propre de l'espérance chrétienne, c'est la vie en plénitude. On n'espère pas du tout l'enfer. C'est évident, mais ça vaut la peine de le rappeler. Si le traité des fins dernières en parle, c'est parce qu'il peut aussi constituer un état définitif. La béatitude éternelle, qui consiste en la jouissance de Dieu lui-même, est seule ce qui est espéré. Enfin, la mort, les jugements particuliers et derniers, comme le retour du Christ, concernent la fin en tant qu'action ultime qui arrive à la fin et qui établissent l'état définitif de l'homme. Donc l'avènement du Christ est espéré, et s'il est espéré, c'est parce qu'il sonne l'heure de la résurrection des morts, et donc le don de la vie jusque dans le corps. Il en est de même pour le jugement. Alors si on s'attache au credo, que j'ai cité tout à l'heure, les fins dernières ont une portée non seulement anthropologique, je ressuscite, je vais avoir la vie, mais aussi christologique. Cette espérance porte sur un objet désiré, possible et difficile à obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce qui concerne la fin dernière, ce n'est pas nous qui nous donnons la fin dernière, c'est le Christ qui nous la donne. C'est le Christ qui nous donne le ciel. Ce bien nous est donné par le Christ. La mort est le passage qui transporte dans la réalité définitive, et à la mort, eh bien, l'homme se retrouve devant son Seigneur qui, en vérité, le juge. Et ce jugement du Christ est un acte dont l'homme dépend, mais sur lequel il n'a aucune prise. Je dépends d'un autre. J'ai remis ma vie dans les mains d'un autre. Et ça qui peut être aussi difficile pour nous, dépendre d'un autre, du Christ. Donc l'espérance s'appuie sur Dieu et elle a Dieu pour objet. Ayant foi dans ce que Dieu a révélé en Jésus, donc le croyant espère la parousie et le jugement du Christ. Donc, l'espérance dépend non seulement d'un autre, mais en plus d'un acte futur sur lequel l'homme n'a pas de prise. Et donc, c'est une invitation à la remise de soi dans la confiance, à la dépossession de soi. Et bienheureux, puisque c'est dans les mains de Dieu. L'espérance que le Seigneur offre par son Église est malheureusement souvent mal comprise, accueillie, et même niée, refusée. C'est le troisième point. La vie éternelle, comme Benoît XVI l'a expliqué dans Spe Salvi, n'est plus perçue pour ce qu'elle est. Plus encore, le traité dogmatique consacré aux fins dernières fait sourire nombre de nos contemporains. Généralement, vous parlez de l'enfer, vous avez un sourire un peu narquois là, devant vous. Et de fait, le discours sur la foi, de la foi sur les réalités ultimes a suscité diverses réactions et de nombreuses objections dont nous sommes les héritiers. Ils ont suscité un malaise, si bien que les reproches qui ont été faits aux croyants résonnent encore à notre époque. Et les maladresses aussi. Ceci concerne aussi bien le contenu que la possibilité de parler des fins dernières. C'est à tel point que cette partie de la théologie est devenue le grand absent de la prédication dominicale. Pour le positiviste, qui met son credo dans les sciences, et que là, affirmer une vie après la mort et une résurrection relève du non-sens et de l'incertain. Les images liées aux fins dernières semblent relever de l'irrationnel. Comment peut-on affirmer quelque chose dont on ne peut faire aucune expérience? Ce qui concerne la mort, outre la décomposition du corps, n'appartient pas au domaine du connaissable. Tout juste pouvons-nous parler de ces expériences vécues et relatées lors d'une mort clinique médicale, les EMI par exemple. Le relativiste, quant à lui, ne peut concevoir que l'on affirme une réalité ultime et définitive, que l'on proclame des dogmes à son sujet. Oser annoncer le véritable bonheur après la mort, c'est selon Marx maintenir l'homme dans l'oppression et l'empêcher de travailler à un monde meilleur. Le psychanalyste, pour sa part, n'y reconnaît que la projection d'un désir illusoire de bonheur parfait. Le nihiliste y voit la négation du déploiement de sa liberté. Il refuse de vouloir dépendre d'un autre. Il refuse encore au nom, et il voit, pardon, là-dedans, le refus au nom d'une utopie d'accueillir la joie qu'il y a à vivre ici. L'athée, enfin, ne voit dans la mort que la fin de l'homme. Il n'y a pas Dieu, et donc encore moins de vie après la mort. Taisez-vous. De nombreuses autres questions ont encore été posées. Comment concilier l'amour de Dieu et l'enfer ? Certains, au nom de leur foi en l'amour de Dieu, refusent la possibilité même d'un enfer. Une damnation éternelle est somme toute trop cher payée pour les quelques fautes ou péchés qu'on aurait pu commettre. Dieu ne pourrait tolérer que ceux qui l'aiment souffrent éternellement. Existe-t-il un purgatoire ? Comment concilier le temps et l'éternité ? Quand advient la résurrection des morts ? En raison de l'éternel présent de Dieu immédiatement à la mort de chacun ou au retour du Christ. Comment la penser d'ailleurs ? Existe véritablement une séparation de l'homme et du corps et de l'âme ? L'âme peut-elle exister en dehors du corps ? Y aura-t-il vraiment une résurrection des corps ? Comment comprendre l'avènement du Christ ? Ne vient-il pas sans cesse à chaque instant ? Pour finir, les images de la Bible, les grincements de dents, c'est pertinent ? Le feu, là. Faut pas laisser tomber tout ça ? Ne sont-elles pas anti-pédagogiques ? Avons-nous le droit de parler de l'enfer ? N'est-ce pas terroriser les gens ? Les nombreuses questions et négations que je n'ai fait qu'évoquer, demande de fonder ou de clarifier les principes qui guident la pensée chrétienne. C'est le quatrième point. Dans l'histoire sainte, Dieu a pris au sérieux les ténèbres humaines, toutes les négations de Dieu, pour les vaincre de l'intérieur et donner sa lumière. Dans la mort du Christ, le Seigneur a assumé tout ce qui lui est le plus contraire. Et par sa résurrection, il l'a dépassé. C'est donc en repartant de cette histoire que nous pourrons recevoir les réponses aux questions et aux objections les plus aiguës. Si l'histoire est le moyen que Dieu, incréé, a choisi pour communiquer ce qu'il est révélé à la créature humaine, cela signifie que cette histoire est le moyen le plus adéquat, adapté pour transmettre ce qu'il veut donner. Pas une erreur de casting. Si Dieu a utilisé des actes et des paroles humains comme moyen de révélation, cela veut dire que les événements et les langages choisis conviennent à ce qui est communiqué. Ils ne trahissent pas ce que Dieu a voulu transmettre, mais le disent avec justesse. C'est une des grandeurs justement de Dieu, incréé, infini, grand, absolu, que de parvenir à se dire dans le créé, le fini, le petit, le contingent. Dès lors, il ne faut pas vouloir passer outre les événements et le langage, chercher une expression au-delà ou en dehors de ceci, mais abonder dans leur sens. Ce sont les actes et les mots que Dieu lui-même a choisis, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Refuser cela, c'est se condamner à d'autres mots ou images que ceux-là même que Dieu a voulu pour se dire adéquatement, et nous révéler à nous-mêmes. Cela implique que la forme que Dieu a donnée à l'histoire sainte est déterminante. Il s'agit donc pour nous de recevoir notre pensée de la structure même de l'histoire, de sa forme. Les fins dernières constituent l'apogée de cette histoire sainte et de l'histoire tout court. Pour pouvoir comprendre ce à quoi on parvient, pour saisir la fin à laquelle on parvient, il est donc nécessaire de faire le chemin qui va du commencement jusqu'à la fin. Il faut partir du commencement pour parler de la plénitude de la joie à la fin, pour percevoir tout son enjeu, sa vérité. Un tel parcours, donc le commencement jusqu'à la fin, est livré par Dieu dans l'Écriture. De la création à l'établissement de la Jérusalem céleste, la Bible est le récit de l'histoire sainte qui, de Dieu, conduit à Dieu. Il s'agit ainsi de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de laisser notre pensée être formée par elle. Alors, comme nous le savons, l'Écriture est divisée en Ancien et Nouveau Testament. Refaire le chemin de l'histoire sainte, c'est donc opérer le passage qui va du début de l'un à la fin de l'autre. En fait, tout l'Ancien Testament est attiré, orienté vers la fin. Il est promesse d'un accomplissement à venir. Comme l'exprime Lubach, je cite, « La prophétie juive, celle des anciens prophètes comme celle des apocalypses, était eschatologique. Elle annonçait un ordre de choses définitif qui devait se substituer à l'ordre ou au désordre actuel. » Fin de citation. Le signe de l'accomplissement de cette annonce était la venue du Messie. Mais, comme l'explique encore Lubach, je cite, vous l'avez sur vos feuilles, « Le Messie venu, son œuvre accomplie, lui-même ressuscité, le temps continuait son cours, sur une terre inchangée. » Un hiatus s'était ouvert entre le premier et le dernier avènement. Il fallait donc, semblait-il, concevoir le Nouveau Testament, vérité par rapport à l'Ancien, comme simple image par rapport à la dernière réalité, celle encore à venir. Le mystère révélé par l'incarnation du Verbe explique Lubach ailleurs encore, je cite, vous l'avez encore sous vos feuilles, ne devait pas recevoir d'un coup son dernier accomplissement. Il se déroule en trois phases, ou se diversifie en trois états successifs. Autrement dit, on distingue annoncé dans l'Ancienne Écriture un triple avènement du Christ, ce qui oblige à distinguer pareillement un triple sens mystique. Ceci est très très important pour bien articuler notre pensée. Le premier avènement, humble et caché sous notre terre, opère l'œuvre rédemptrice qui se poursuit dans l'Église et dans les sacrements. C'est l'objet de l'allégorie, proprement dite. Le deuxième avènement, tout intérieur, a lieu dans l'âme de chaque fidèle, et c'est la tropologie qui l'expose. Le troisième et dernier avènement est réservé pour la consommation du siècle, quand le Christ apparaîtra dans sa gloire et viendra chercher les siens pour les emmener avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'accomplissement est déjà pleinement réalisé en Jésus-Christ et dans son Église, il ne cesse de s'accomplir en chacun aujourd'hui jusqu'à son plérôme. Il y a ainsi un déploiement de l'accomplissement qui se déroule en trois étapes, ce qui est déjà arrivé en Christ et son Église, ce qui ne cesse d'arriver grâce à lui, en chacun, et ce qui adviendra à la fin. Encore autrement dit, ce qui est déjà réalisé, ce qui se réalise et ce qui se réalisera. Donc, on a quatre temps. Vous me direz, oui, mais c'était trois. Non, quatre. Il y a celui de la promesse et celui de l'accomplissement qui se décline en trois. L'accomplissement est donc un crescendo qui, commencé avec le Christ, se poursuit depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour et à la résurrection des corps. C'est un accomplissement progressif, toujours plus inclusif. Comme Lubach l'a montré, ces quatre étapes induisent une quadruple manière de lire l'écriture qui s'est développée dans la tradition de l'Église. On parle des quatre sens de l'écriture. J'imagine que si vous êtes ici, vous avez déjà entendu parler de ça. Ceux-ci ont été synthétisés sous la forme d'un adage aujourd'hui bien connu et repris par le magistère récent. Je le cite, vous avez la citation normalement. Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas analogia. Donc, le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, l'analogie ce vers quoi il faut tendre. L'allégorie concerne la foi, l'anthropologie la charité, l'analogie l'espérance. Alors, l'exemple classique pour illustrer cela, c'est la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est d'abord la ville qui est aujourd'hui sise en Palestine, déjà au temps de Jésus. Selon le sens, ça c'est le sens littéral, c'est la ville de David. Selon le sens allégorique, ben, c'est la réalité de l'Église. Selon le sens anthropologique, c'est l'âme de chaque fidèle. Enfin, selon le sens analogique, c'est la Jérusalem céleste. Alors, puisque notre sujet concerne le dernier sens, l'anagogie, précisons justement comment l'entendre. Lubach dit ceci, en son acception la plus générale et la plus abstraite, le sens anagogique est celui qui conduit la pensée de l'exégète, de celui qui lit l'écriture, en haut. Donc l'anagogie, qui nous intéresse ici davantage, c'est ce qui est en haut ou ce qui vient d'en haut, ce qui est donné d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Je pense que ceci n'est pas sans importance parce que l'histoire sainte que la lettre relate annonçait un ordre de choses définitif, un accomplissement de la part de Dieu. Elle est tout entière tendue vers cet accomplissement d'en haut. Aussi, d'une certaine manière, pouvons-nous dire que l'accomplissement tout entier, et donc aussi chacun des trois moments, est anagogique. Et donc on peut parler, si on veut, de trois types d'anagogie, des trois choses où ça se réalise. Je reprends simplement, dit autrement, ce que j'ai déjà expliqué. Depuis l'incarnation du Christ, nous sommes dans les derniers temps. Le premier type d'anagogie et celui de la venue du Christ dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et c'est aussi sa présence aujourd'hui dans l'Église et les sacrements. Donc le point de vue est ici objectif et doctrinal. En Jésus et l'Église, les promesses de l'Ancien Testament se sont vraiment réalisées. La seconde analogie se rapporte à la venue du Christ en nous par son Esprit. Donc nous tendons vers l'intériorisation du mystère du Christ en nous. Cette intériorisation est elle aussi accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Je cite Lubach, cette anagogie introduit hic et nunc dans la vie mystique. Au terme de ce mouvement, elle réalise la contemplation de Dieu. Et donc c'est le point de vue de la réalisation subjective. Ça vient à moi, ça me rencontre moi. Et cette anagogie-là, on peut dire qu'elle est réelle, concrète, parce qu'il y a déjà ici-bas une réelle union à Dieu dans la contemplation. Le troisième type d'anagogie, qui est en fait l'anagogie proprement parlée, c'est la réalisation plénière où Dieu sera tout en tous. En fait, c'est l'anagogie pleinement concrète, totale, réservée à la patrie. Parce qu'il y a quand même une différence entre la contemplation et la vision. Cette dernière anagogie dit que nous espérons ultimement la plénitude de l'accomplissement. Donc elle achève la formule doctrinale du quatuple sens. Elle enseigne cette partie de la dogmatique chrétienne qu'on appelle eschatologie et qui va de plus en plus en se subdivisant elle-même en deux parties selon qu'on envisage les fins dernières de chaque personne ou de celles de l'univers entier. Ce rythme donc que j'essaie d'expliquer et qui découle de cette triple venue du Messie, du Sauveur, articule l'histoire lui donne sa structure et sa dynamique. Il possède une logique qu'il s'agit justement de respecter. Il est déterminé par un axe central, le Christ, et plus précisément sa mort et sa résurrection. Ce que nous croyons du Christ, nous espérons le recevoir pour nous-mêmes. Par lui d'ailleurs. Et Lubac l'explique, la résurrection de Jésus-Christ était le gage et l'exemplaire de notre résurrection future. Alors seulement, la mort étant enfin vaincue, nous jouirons de toute la vérité dont le Fils de Dieu avait apporté sur terre la figure. Donc, allégorie, le Christ, et anagogie doivent être considérées dans un rapport plus parfaitement intérieur. On voit en effet ici que l'anagogie, elle est déterminée par l'allégorie. L'espérance de l'anagogie, qui lui est propre, donc, est fondée dans la réalité de l'allégorie. Par la foi, le croyant, dit Lubac, tient déjà la substance des choses qu'il espère. Il a déjà pénétré, quoique secrètement encore, dans le royaume. Alors, j'étais un peu trop vite. Le passage de l'allégorie, vous l'avez deviné, hein, le passage de l'allégorie à l'anagogie ne peut se faire que dans la mesure où nous accueillons le Christ et son esprit déjà dans la vie présente. C'est-à-dire dans la mesure où nous ressuscitons spirituellement. Et cet accueil, cette résurrection, se réalise par la charité. Donc c'est le moment tropologique qui suit l'allégorie. La tropologie est l'intériorisation du mystère du Christ afin qu'il puisse se déployer pleinement en nous. Entre les trois sens spirituels, vous comprenez bien, allégorie, tropologie, anagogie, il y a donc une intime connexion. En conséquence, si l'allégorie est ce qui est rapporté à la foi, et la tropologie à la charité, l'anagogie dit notre espérance fondée sur la foi en Jésus, accueillie par la charité et vécue dans la charité. Je termine avec une citation de Lubac que vous avez sur vos feuilles. L'anagogie réalise donc la perfection et de l'allégorie et de la tropologie en achevant leur synthèse. Elle n'est ni objective comme la première, ni subjective comme la seconde. Au-delà de leur division, elle réalise leur unité. Elle intègre le sens total et définitif. Elle vise dans l'éternité la fusion du mystère, le Christ et la mystique, le fait que le mystère est intériorisé. Elle constitue donc la plénitude du Christ. Comme j'ai déjà dit, ce rythme n'est pas sans importance pour notre cours. Si le quadruple sens structure la révélation et le langage théologique, comment n'en sort-il pas également ainsi pour le traité des fins dernières? En fait, c'est seulement en respectant la logique de l'histoire sainte que nous pouvons réfléchir de manière ajustée et répondre vraiment à la question de l'eschaton, à toutes les questions que j'ai essayé d'énumérer tout à l'heure, qui était une liste qui n'était pas exhaustive, bien sûr. Si nous voulons recevoir de Dieu ce qu'il dit sur l'ultime, il faut nous approprier le chemin qu'il invite sans cesse à parcourir, c'est-à-dire le passage de la promesse à l'accomplissement, la structure de l'histoire, moyen par lequel Dieu se dit lui-même et nous révèle à nous-mêmes, est tracé, est le tracé que nous devons emprunter si on veut se laisser façonner par la vérité révélée par Dieu. Donc, notre lecture se veut téléologique, c'est-à-dire en fait en fonction de la fin, tout en s'inscrivant dans la dynamique de la promesse et de l'accomplissement. C'est-à-dire le passage de l'ancien au nouveau. Ce passage permet de saisir la nouveauté du Christ et de prendre au sérieux la difficulté que cette nouvelle peut susciter, que cette nouveauté peut susciter. À l'image d'Israël qui a eu besoin de plusieurs centaines d'années pour entrer dans l'intelligence du plan de Dieu, l'intelligence de la foi concernant les fins dernières ne s'acquiert pas sans un chemin personnel dans lequel l'homme s'engage. Enfin, ça tombe bien, vous engagez en blanc ici. Mmh. Et de même qu'Israël a eu besoin de ce chemin pour entrer dans la profondeur de l'action de Dieu, il est nécessaire aux croyants de refaire ce chemin sous peine de ne pas percevoir le poids des difficultés et la grandeur du salut offert par le Christ. C'est seulement alors que la vérité de la foi est reçue pour ce qu'elle est, une réponse à la soif du cœur humain. Il est essentiel, donc, en lisant la lettre de l'Ancien comme du Nouveau Testament, de respecter le sens littéral et sa progressivité. L'Écriture est témoin d'une lente élaboration de la pensée sur les fins dernières. Il faut donc prendre garde, en étudiant la lettre sainte, par exemple un passage de l'Ancien Testament, de ne pas passer tout de suite au sens spirituel du texte, ou de voir tout de suite, chez les prophètes, ce que l'on connaît grâce aux évangiles, ou au développement dogmatique plus tardif. Ce serait perdre une richesse que la relecture incessante de la Bible offre. Passer outre le sens littéral pour accéder directement au sens spirituel, c'est manquer en fait le chemin de l'histoire et se condamner à terme à ne plus comprendre la profondeur et la richesse du sens spirituel. Donc, vous m'avez compris, il est important de partir de la lettre et donc de l'Ancien Testament, de son début. Donc, je pense qu'on peut appliquer au traité des fins dernières ce que François Gonon, un ancien de la maison et professeur à Paris, affirme à propos de la théologie morale. Je cite. « Si la relecture de l'Ancien Testament recèle une immense richesse christologique, elle ne peut pas manquer non plus d'offrir une clarté anthropologique et éthique précieuse. » Donc, à notre tour, nous pouvons dire « Si la relecture de l'Ancien Testament recèle une immense richesse christologique, une clarté anthropologique et éthique précieuse, elle ne peut manquer non plus d'offrir une lumière particulièrement éclairante concernant les fins dernières. » Donc, comme pour Gonon, notre but est d'entrer dans l'intelligence des rapports dynamiques entre la loi, les prophètes, la sagesse et l'apocalyptique de l'Ancien Testament, pour en recueillir l'annonce de l'ultime qui s'y est préparée et s'y déploie déjà de manière cachée. Après cela, il s'agira de suivre le sens littéral du Nouveau Testament, qui est le sens spirituel de l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, particulièrement lorsqu'il relate la mort et la résurrection du Christ, mais le sens littéral du Nouveau Testament et le sens spirituel qui est Jésus s'identifient. On parle directement de cela. Après avoir écouté le sens littéral de l'Ancien comme du Nouveau Testament, il faut encore relire la lettre selon ce sens anagogique. Et donc de relire la péricope, le passage de la Bible, à partir de la réalité cachée qu'il désigne. La ville de Jérusalem, la Jérusalem céleste. La question donc est de savoir quelle est la réalité que la lecture spirituelle va signifier, va désigner. Et donc c'est aussi de savoir si l'application d'une réalité spirituelle à tel ou tel passage de l'Écriture est respectueuse de la lettre et de la foi. Il faut le savoir, sinon on risque de tomber dans l'arbitraire. Oui, c'est comme ça qu'on va petit à petit pouvoir élaborer notre pensée et commencer à trouver des réponses aux questions que nous nous posons. En fait, les règles de validité de l'application sont connues. Elles ont été exprimées dans Dei Verbum. Il s'agit de faire attention à l'unité de l'écriture, de la tradition, de l'analogie de la foi et du magistère. C'est donc en fait la règle de foi qu'il faut observer. La pertinence de l'interprétation spirituelle d'une péricope dépend en ce sens de la docilité à l'Esprit-Saint et aux médiations dont il s'est servi et se sert encore aujourd'hui. Ce qu'a dit la tradition est livré dans des monuments écrits, que sont les pères de l'Église, que sont les docteurs, les documents magistériaux, le catéchisme, les conciles, la liturgie, et la vie des saints, si on peut parler de monuments. Alors nous avons une grande chance parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de 2000 ans d'histoire au cours de laquelle l'Esprit n'a cessé de conduire l'Église dans son interprétation de l'Écriture. On n'est pas sans filet, pas sans appui, pour nous assurer de la validité de telle ou telle lecture spirituelle de l'Écriture. Attention toutefois, en faisant cela, à respecter la matérialité de la lettre et les réalités littérales qu'elle désigne. Je ne peux pas attribuer un sens spirituel à un passage où la lettre s'oppose à la logique propre de la réalité désignée historiquement. Le sens spirituel découlera donc du rapport établi entre la réalité littérale et la réalité spirituelle. Ce rapport et cette articulation de l'histoire permettent d'opérer un discernement particulièrement donc précieux en eschatologie. Parce qu'il n'est pas toujours évident de savoir en quel sens entend tel ou tel passage biblique. Je prends deux exemples. Le premier est le psaume 122. Il est question donc de la vie de Jérusalem. Je vous cite le psaume que vous avez sur vos feuilles. « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes de Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères, mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. » Au sens littéral, selon un point de vue sacronique, c'est qui prend le psaume dans son ensemble. C'est d'abord David qui parle de la ville réelle de Jérusalem. Au sens allégorique, c'est de l'Église pérégrinante qu'il s'agit. Elle va vers sa fin. C'est donc la réalité de l'Église qui commande la lecture du texte et celle qui détermine ce que je peux, dans le texte, appliquer vraiment à l'Église, ce que je dois laisser. Tout ne se rapporte pas. Il ne faut pas forcer le texte non plus. Ainsi, par exemple, au verset 4, les tribus du Seigneur sont spirituellement peut-être toutes les nations qui sont intégrées à l'Église, qui entrent dans l'Église, et c'est cela qui est un motif d'action de grâce. Au sens topologique, il s'agit de l'âme ou des âmes qui parviennent à l'union à Dieu en cette vie. Au sens analogique, c'est la réalité de l'Église céleste qui est décrite. Les tribus seraient ainsi toutes les âmes qui marchent vers le ciel. La demande de la venue de la paix dont il est question pour l'Église de Jérusalem céleste ne serait pas à comprendre comme s'il n'était point encore donné, mais comme le désir que cette paix se poursuive. Et ici, la prière, évidemment, pour le bonheur de Jérusalem ne s'applique pas dans la mesure où l'Église céleste est déjà bienheureuse. Il n'y a plus de devenir, sauf s'il y a un devenir en Dieu dans le ciel. On en parlera peut-être un peu plus tard. Le second exemple est tiré du livre d'Isaïe. Au chapitre 26, verset 19, le prophète affirme la chose suivante. « Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, car ta rosée est une rosée lumineuse, et le pays va enfanter tes ombres. » Donc comment entendre cela? Il semble évident que la rosée lumineuse doit être perçue au sens métaphorique d'une image. La question est alors, en est-il de même pour l'assertion sur les morts et les cadavres? Qu'est-ce qui me ferait dire l'un est métaphorique, l'autre non? En fait, la réponse se décline en fonction des quatre sens de l'écriture. Et elle n'est pas la même selon l'époque de l'histoire sainte à laquelle on se situe. Selon le sens littéral, l'affirmation signifie la restauration du peuple après l'exil que le prophète vient d'annoncer. Selon le sens allégorique, le passage d'Isaïe parle de la résurrection corporelle du Christ et spirituelle, résurrection spirituelle de l'Église. Selon le sens topologique, c'est le don de la vie divine dans les âmes lorsqu'elles accueillent le salut opéré par le Christ. Selon le sens analogique, grâce à la résurrection du Christ, on peut avoir de l'audace et prendre l'affirmation au sens propre. L'annonce prophétique vise la résurrection des corps de tous les hommes. L'événement de la mort et de la résurrection du Christ constitue donc une clé herméneutique d'interprétation et un guide pour bien comprendre l'Écriture sainte, pour bien l'interpréter en ce sens-là. Il permet de savoir s'il faut entendre une expression biblique au sens figuré ou s'il est même possible de l'entendre au sens propre. Il faut aussi préciser que le sens analogique ne se comprend pleinement qu'en fonction des trois autres. Ainsi, la résurrection de la chair pour la vie éternelle ne sera le fait que de ceux qui auront cru dans le Christ, sens allégorique, et accueilli sa grâce par la charité, sens tropologique. Si j'oublie les deux premiers sens, je risque de mal comprendre le troisième. Il faut les intégrer, les articuler entre eux. Donc, vous commencez à comprendre ce qui se passe. La théologie des fins dernières est la projection dans la même direction de ce qui a déjà été promis dans l'Ancien Testament, accompli dans le Christ, et qui ne cesse d'être offert durant le temps de l'Église pérégrinante. En ce sens, le discours eschatologique n'est pas arbitraire. Il possède ses lois et ses logiques propres qui ne sont autres que celles de la révélation. C'est comme, si vous voulez, un sportif qui veut sauter. Et pour sauter, il faut qu'il recule, qu'il prenne son élan et il va arriver. Mais avant qu'il n'ait fait cela, il ne sait pas encore. Mais en courant, il voit où il va arriver. Et il peut dire où il va arriver. Approximativement, mais il peut vraiment dire qu'il n'ira pas de l'autre sens. Alors ce discours théologique, tant que nous sommes encore en chemin, gardera toujours un aspect théorique. Je suis vraiment désolé, abstrait, par le simple fait que ce n'est pas encore là. Donc il ne faut pas demander l'impossible. Il attire, si vous voulez, un peu de corporealité que dans la mesure où on a vraiment intégré le chemin. Alors il y a une consistance. Selon cette perspective, ce sens spirituel analogique et le sens qui fait voir dans les réalités de la Jérusalem céleste, les réalités de la Jérusalem céleste. Or, ces réalités, quoiqu'elles ne soient plus des choses du temps, sont néanmoins, pour nous qui cheminons et peinons justement dans le temps, choses encore à venir, désirées, espérées. Alors, le déploiement du quadruple sens de l'Écriture n'est pas sans rapport avec les différentes disciplines théologiques. Ce point est aussi important. Donc, je veux dire, les théologies bibliques, dogmatiques, morales et fondamentales. Les articulés sont les quatre sens de l'Écriture. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que il va y avoir des interactions. Pour bien comprendre toutes les affirmations eschatologiques de la foi, ce qui concerne notre espérance, il est important d'avoir une juste compréhension de l'Écriture, ça, vous le comprenez, mais aussi de la dogmatique, de la morale et de la théologie fondamentale. Donc les difficultés que l'on peut rencontrer peuvent dériver de mécompréhension de celles-là. Une lecture, par exemple, fondamentaliste de l'Écriture pourra amener à penser, en lisant Apocalypse 7, 4, qu'il ne pourrait y avoir pas plus de 144 000 saints au ciel. Ne pas prendre au sérieux la bonté de la création et donc de la matière court le risque de ne pas voir l'importance de la résurrection des corps. L'oubli du sérieux de la liberté de l'homme est susceptible de conduire à refuser, au nom de l'amour de Dieu, la possibilité même de l'enfer. Ces quelques points disent brièvement pourquoi la doctrine de la foi catholique concernant les fins dernières peut être difficile à recevoir, plus encore est un sujet délicat, parce qu'il y a beaucoup de présupposés. En ce sens, nous espérons qu'en suivant justement la logique de l'histoire que Dieu lui-même a déployée selon le sens, le rythme de l'écriture, qu'en faisant cela, nous serons dès le départ dans l'éthos, dans le milieu, qui permettra de réfléchir à toutes ces questions de manière ajustée. Et là, vous avez la raison pour laquelle le cours donne une large part à l'écriture. Alors, parler de compréhension ou d'incompréhension renvoie à l'effort théologique où, dans la foi, le théologien cherche à expliquer ce que Dieu révèle. Une des tentations, encore, ce sera de vouloir confiner le mystère divin dans un système bien lisse, bien huilé, sans reste, et de réduire le contenu révélé à ce que la raison peut en comprendre ou en accepter. Il s'agit en fait de Dieu, et Dieu ne se laisse pas enfermer, pas plus aujourd'hui qu'hier. Il faut donc accepter le lent déploiement de l'intelligence du mystère dans l'histoire, ses lumières et ses obscurités, ses incertitudes à tel ou tel moment de son développement. Celui-ci a commencé avec l'histoire biblique, il se poursuit aujourd'hui encore. Et donc, je ne prétends pas donner une réponse à tout. Bien des questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Donc, on sera attentif au rythme de l'histoire, à ne pas vouloir aller trop vite. Ce qui est acquis aujourd'hui, ne pas voir trop vite ce qui est acquis aujourd'hui, et qu'accepter que certaines questions en fait n'ont pas encore de réponse. Je m'arrête ici, je vous remercie pour votre attention.